tout pour investir, le coach.
Le coach d'argent, le coach de grosses sommes d'argent. Si vous venez à toucher une grosse somme d'argent, il y a des erreurs à ne pas faire. Bastien Baron vous prend par la main. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes conseiller en gestion de fortune chez Justae Gestion Privée. Avec vous, on réfléchit à ces situations qui arrivent, pas qu'aux autres. Héritage, donation. Quelle autre situation fait qu'on peut être très très riche du jour au lendemain?
Un gain au jeu, ça peut être sympa. Une vente immobilière, ça peut être vendre sa société, vendre des actions gratuites, lever et vendre des stock options. Il y a pas mal de possibilités. Rupture conventionnelle aussi, on voit des trucs assez importants qui arrivent.
Dans tous les cas, prudence et patience, vous allez nous dire. Il faut réfléchir à ses objectifs financiers. Vous allez nous dire déjà, pour commencer, les pires trucs à faire. Les erreurs que si vous les commettez, vous êtes vraiment mal. Racontez-nous.
Première chose, c'est déjà de ne pas anticiper la fiscalité l'année prochaine. Alors, sur certaines opérations, on est fiscalisé immédiatement, donc c'est assez facile. Mais je prends l'exemple qui est assez régulier, on va dire, sur notamment les ventes d'actions gratuites, les levées et ventes de stock options. La fiscalité, elle est qu'en N+1. Et finalement, si on a accumulé une certaine somme, qu'on l'a dépensée ou qu'on l'a allouée de manière illiquide, bah on a une mauvaise surprise lorsqu'on fait sa déclaration l'année suivante. Et souvent, on se retrouve avec des situations assez rocambolesques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est souvent un biais qu'on peut avoir. On se dit, j'ai une somme d'argent qui arrive, j'ai de la dette, j'ai des flux sortants réguliers, je paye une mensualité.
Par exemple, un crédit immobilier.
Un crédit immobilier, ouais, tout simplement. Et en fait, bah, je me dis, cette somme, je rembourse mon crédit, comme ça, j'ai plus les mensualités, j'ai plus la dette, je suis plus sécure, etc. Et finalement, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que donc il n'y a pas eu énormément de crédits sur les deux dernières années depuis que les taux sont élevés. Donc on est plutôt, en réalité, sur des taux à 1 à 2% finalement. Donc faible. Dans le crédit immobilier, il y a quand même l'assurance emprunteur qui permet aussi de protéger son conjoint, sa famille, etc. s'il nous arrive quelque chose. Et puis si on est à l'IFI, on a en plus une déduction de la dette, donc à des taux de 0,70, 1%, etc. Tout ça fait que finalement le crédit, il coûte extrêmement peu cher et beaucoup moins cher que ce que votre épargne peut rapporter. On rappelle que les livrets réglementés, livret A, livret développement durable, rapportent 3% net de fiscalité par an. Et qu'on peut aller au-delà si on s'organise.
Bon, vous l'entendez, en tout cas dans le contexte actuel, ça n'est pas une bonne idée de rembourser un crédit immobilier auquel on aurait souscrit il y a quelques années, au moment où les taux étaient bas, même si on touche une grosse somme d'argent. Il y a une chose aussi qu'on est tenté de faire, c'est faire comme les autres, comme quelqu'un de sa famille, comme un ami, un ou une collègue. Et ça, c'est pas une bonne idée, vous nous dites.
Non, parce que forcément, on voit aussi beaucoup d'influenceurs maintenant. Donc, on entend des personnes sur Internet et on se dit, tiens, je vais faire un petit peu comme eux. Sauf qu'en réalité, la personne qui va vous donner un conseil, elle n'est pas dans la même situation que la vôtre, d'un point de vue personnel. Pas le même âge, peut-être pas la même situation maritale, peut-être pas les mêmes enfants, enfin des enfants en tout cas, etc. Le même patrimoine, etc. Et en fait, en plus, surtout, ce qui est important, c'est que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Peut-être pas, en fait, voilà, ce que vous visez, c'est pas du tout la même chose et surtout pas la même appétence au risque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de ne pas faire exactement la même chose. Et il y a surtout un biais aussi qui est assez universel, c'est que quand on entend des gens autour de soi, tout le monde réussit, tout le monde fait que des bonnes opérations en bourse, on en parle souvent ici. Et finalement, on a l'impression que tout le monde est très bon alors que tout le monde est omet de
raconter les choses qui ne marchent pas.
Exactement, les choses qui ne marchent pas. Donc souvent, on se fait une image et finalement, c'est pas la meilleure solution.
C'est vrai qu'on fait rarement des posts sur les réseaux sociaux sur ces erreurs et les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi quelque chose qui est terrible, c'est quand on gagne une grosse somme d'argent, vous l'avez rappelé, au gain, lors d'une rupture conventionnelle, un gros bonus, une cession de titres, un héritage, c'est de ne rien faire.
Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus souvent.
C'est vrai.
C'est-à-dire, les personnes se posent des questions, puis le temps passe, l'argent est toujours sur un compte courant, il a été placé sur un livret, vu que les montants sont importants, du coup, qui est non réglementé, donc qui est fiscalisé. Et finalement, bah, le temps passe, il y a un petit peu d'intérêt, donc on a l'impression de ne pas perdre d'argent, mais finalement, versus l'inflation, on perd de l'argent de manière quotidienne. Mais bah, on se sent en sécurité, et finalement, le temps passe. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ne rien faire.
Voilà, alors attention. Anticipez l'éventuelle fiscalité, ça c'est très important. Ne remboursez pas votre crédit IMO. Ne copiez pas vos collègues, vos amis, et puis surtout, faites quelque chose. Bon, alors maintenant, vous nous avez dit ce qu'il ne fallait pas faire. Dites-nous les choses qu'il faut faire. Quelle est la grille d'action qui est utile à avoir en tête?
Je pense que la première, c'est prendre des conseils. Là, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais en fait, c'est prendre des conseils, c'est assez logique. On peut s'appuyer justement sur ses collègues, sur ses amis, etc., qui sont peut-être eux-mêmes conseillés. Et donc, par le jeu des recommandations, c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est-à-dire qu'on écoute ses collègues et ses amis pour le carnet d'adresses.
Exactement.
Pas pour les conseils financiers.
Et c'est comme pour un resto, au final. On va leur dire, tiens, où est-ce que je peux aller? Un truc sympa, et on y va. Souvent, le premier rendez-vous, en plus, il est offert, parce que l'idée est de voir s'il y a un bon feeling qui va matcher, etc. Donc, au pire, vous avez perdu un petit peu de temps et vous avez eu quelques conseils gratuits. Mm-hmm. Et au mieux, il y a une relation qui se crée et vous pouvez avancer. Il y a une chose à préciser qui est assez importante, c'est que ce que beaucoup oublient, c'est pour ça que c'est important de le préciser, les gérants, par exemple, de fonds de private equity qui touchent des carry d'interest importants, il y a des foncières, etc. Tous ces acteurs-là sont accompagnés en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans un domaine particulier. Donc c'est sûr que le gérant de private equity, on ne va pas l'accompagner pour lui conseiller d'autres investissements sur ce sujet-là. Mais sur tout le reste, il n'est pas forcément accompagné. Même chose pour une foncière. Une foncière, évidemment, sur la partie immobilière, elle a l'habitude, ça va être géré, etc. Mais sur toute la trésor et autres, elle est accompagnée également. Mmh. Donc c'est important, en fait, de comprendre que personne ne maîtrise forcément 100% du sujet.
Peut-être une question que j'aurais dû vous poser en début de séquence. Quand on parle d'une grosse somme d'argent, c'est gros comment gros?
Je redoutais la question, j'étais content qu'on l'ait un petit peu zappé. C'est pas facile à dire, mais je pense que c'est, on peut peut-être dire plusieurs années de revenus, par exemple, pour le citer, comme ça dépend des revenus de chacun. Mais c'est une somme qui va quand même changer un petit peu votre vie. C'est pas l'euro million non plus, mais c'est une somme où on commence à se poser des questions. On se dit, mes livrets sont déjà au plafond, j'ai déjà fait quelques trucs. Bon, bah là, qu'est-ce que je peux faire en plus? Voilà, c'est peut-être plutôt ça l'idée.
Voilà, vous retiendrez qu'une grosse somme d'argent, c'est plusieurs années de revenus pour cette séquence. Bon, on prend des conseils, vous nous l'avez dit, mais il faut aussi réfléchir, planifier d'un point de vue patrimonial. C'est ce qu'on essaye de faire parfois dans cette émission, alors expliquez-nous ce que ça signifie.
Oui, tout à fait, je pense que le but, et de toute façon ce qui va être fait avec le professionnel, c'est aussi de se lancer dans une planification un peu plus globale, une planification patrimoniale. Premièrement, on va commencer par identifier vos objectifs. Donc ça peut être... si vous avez des enfants, anticiper leurs études, ça peut être préparer la retraite, selon votre âge, commencer à optimiser votre transmission, acheter une résidence secondaire, etc. Et ensuite, on va les hiérarchiser, parce que peut-être que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et l'idée en fait, de tout ça, c'est quoi? C'est que chaque objectif que vous allez avoir ne va pas avoir le même horizon de placement. Et on en parle régulièrement, l'horizon de placement, il est très important, parce que... deuxième sujet, c'est que plus on a l'espérance de rendement, elle est directement liée au risque que l'on va prendre. Et plus on a du temps devant soi, plus on peut accepter une certaine dose de risque, oui, d'illiquidité. Donc le but, ça va être, si j'enchaîne derrière, c'est de créer une stratégie patrimoniale assez globale. En fait, on va organiser votre patrimoine par rapport à l'horizon de placement que vous avez.
C'est construire une pyramide patrimoniale avec tout en bas, quelle épargne?
En fait, au départ, on commence toujours par l'horizon le plus court. Donc c'est quoi? C'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est tout le monde a besoin d'avoir son petit matelas de sécurité, donc de 10 000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les personnes, plus toutes les dépenses qui sont certaines dans les 18 prochains mois.
Ok, donc c'est l'horizon de 18 mois.
Ouais, 18 mois maximum, ça c'est ce dont vous avez besoin. En général, c'est quoi? C'est les livrets réglementés, mm-hmm. Livret A, livret développement durable. Ça fait déjà à peu près 35 000 euros par personne. Aujourd'hui, il y a les comptes à terme qui sont encore bien rémunérés. Et ça, en fait, en réalité, ça va vous permettre de couvrir l'inflation. Donc déjà, vous allez accepter de ne pas vous enrichir, mais vous ne perdez pas d'argent.
Après, l'étage du dessus, c'est le moyen terme. Qu'est-ce que c'est le moyen terme?
Alors, l'épargne de moyen terme, c'est un horizon de 4 à 5 ans. Ce sont des dépenses qui sont certaines. Ça peut être, on parlait tout à l'heure d'études des enfants. Vous savez, vous avez un enfant qui va faire un MBA aux États-Unis. Ça va coûter un petit peu d'argent.
Vous allez je vous dis, si j'ai un enfant qui fait un MBA aux États-Unis, il va le financer tout seul.
si c'est possible, ouais, effectivement. Si vous voulez l'aider et autres, voilà, ça peut être ça. Ça peut être, on parlait d'acheter une résidence secondaire. Mmh. Peut-être que vous avez besoin d'un apport. Ça peut être des travaux de toiture, un ravalement de façade. Enfin, bref, tous ces sujets-là, vous dites, c'est certain, dans 3-4 ans, je ne prends pas de risque. Et aujourd'hui, sur quoi vous pouvez être rémunéré? On voit que sur un contrat d'assurance-vue, aujourd'hui, il y a des fonds en euros qui ont quand même des taux boostés. On va arrondir, mais aux alentours de 4% net. Qu'on peut
attirer les nouveaux fonds.
Exactement, et qu'on peut peut-être doubler avec des fonds obligataires datés, pas trop risqués, ou des fonds monétaires. Donc voilà, sur ces horizons-là, on peut aller rechercher un rendement de l'ordre de 4% net et sans prendre forcément beaucoup de risques.
Bon, vous avez prévu le MBA de votre enfant, votre nouvelle toiture. Là, on va passer à l'épargne de long terme. Tout ce qui est au-dessus de 5 ans, qu'est-ce qu'on met dedans ?
On peut mettre beaucoup de choses, en fait. Là, on peut commencer à accepter deux choses. D'une part, des fluctuations sur le capital qu'on va mettre. Et deuxième chose, une certaine illiquidité. Parce qu'on s'est organisé avant.
Ouais.
On sait qu'on a l'épargne de précaution qui est là. Et deuxièmement, on sait que les dépenses certaines dans les 4-5 ans, elles sont prévues. Donc on peut accepter une certaine dose de risque. Et c'est cette organisation qui va le permettre. Donc là, on va arriver sur énormément de choses. On va arriver sur les actifs cotés, actions, obligations. On peut arriver sur les actifs non cotés. Donc on a parlé un peu de private equity tout à l'heure. Ça peut être tout ce qui est dette privée, infrastructure. Dette privée parce que l'horizon est un peu plus court. Et puis enfin, on peut arriver aussi sur des actifs un petit peu plus alternatifs. Ça peut être des hedge funds. On parle souvent de crypto aussi ici. Donc ça peut être un peu des sujets. On a au moins 5 ans devant soi. On peut se permettre cette dose de risque.
Bon, Bastien, pour finir cette pyramide, il y a l'épargne de très long terme. Pareil, là, on est au-dessus de 10 ans. Et là, on est tout à fait prêt à prendre du risque. Qu'est-ce qu'on met dedans ?
Exactement. Alors déjà, on peut mettre les mêmes choses que j'ai citées juste avant, avec une dose de risque supplémentaire et une dose d'illiquidité supplémentaire aussi. Donc là, il y a certains fonds de private equity, notamment, qui ont des durées beaucoup plus longues. Ça peut être ça. On peut déjà arriver aussi sur les sujets immobiliers. On investit rarement sur de l'immobilier pour 4-5 ans, sauf si on est sur les opérations particulières, mais je veux dire en règle générale. Donc on va voir ça. On va arriver sur l'art, potentiellement aussi, où là, il y a peut-être un côté affect également. On peut arriver aussi sur tous les sujets de groupements fonciers, groupements fonciers forestiers, viticoles, qui vont avoir d'autres aspects, pas uniquement de rendement, mais aussi un aspect en termes de transmission. Donc on peut aussi combiner différents objectifs. Et puis potentiellement, selon l'âge que l'on a, on va arriver sur les sujets de retraite également.
Voilà. Évidemment, il nous faudrait une autre émission pour aborder ce sujet, mais en 30 secondes, il y a le sujet de la manière dont on détient cet argent, dans comment on organise ses poches, ses enveloppes. Il y a le sujet de est-ce qu'on détient en direct, est-ce qu'on monte une SCI, est-ce qu'on monte une holding. Ça, on va réfléchir à ce sujet typiquement avec qui ?
Même chose, je pense que c'est avec un conseil indépendant au final. Pour l'instant, là, on n'a pas du tout parlé d'une seule solution, d'une seule compagnie, d'un seul fonds, etc. Là, c'est une approche qui est vraiment globale. Ensuite, on va effectivement arriver sur comment on détient ses biens. Donc, on a parlé d'un bien immobilier. Est-ce que je vais monter une SCI ? Si j'ai une holding, est-ce que ça a du sens ou pas d'en monter une ? Ça, c'est plus sur la partie immobilière. On peut aussi avoir les sujets sur la partie financière. Bah, très bien, c'est bien d'investir dans les actifs cotés, comme on l'a dit, mais est-ce que c'est au sein d'un PEA ? Est-ce que c'est au sein d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, sur un compte-titre ? Donc, ouais, tous ces sujets-là vont arriver après. Et enfin, la dernière étape, ça va être une fois qu'on a trouvé la compagnie qui est potentiellement le meilleur contrat d'assurance vie luxembourgeois, par exemple. L'idée va être après de trouver les meilleurs gérants pour faire la location d'actifs.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans le cas où vous gagnez une grosse somme d'argent, les erreurs à ne pas commettre, les quelques conseils à avoir en tête. Merci beaucoup Bastien Baron de l'équipe de Justaïb, gestion privée, avec nous sur cette séquence de coaching.